Vous écoutez
RMC. Jusqu'à 1h, c'est RMC Poker Show.
Daniel Riolo.
Salut à tous les amis, bienvenue dans le RMC Poker Show. Comme tous les dimanches minuit, on est ensemble et c'est la folie du poker qui nous attend pendant une heure. Mounzir n'est pas là. Eh oui, c'est rare, il rate jamais une émission dans l'année. Une sorte d'excuse un petit peu secrète. Pierre Calamisa est là en revanche.
Salut mon Daniel.
Ça, Pierre?
Ouais, super.
On embrasse Mounzir qui paraît-il est loin à l'étranger.
Ouais.
Des vacances, du travail, on ne sait pas bien. Il est mystérieux. Hein.
Il est très mystérieux. Il est mystérieux. Au poker mystérieux. Aussi, il est mystérieux.
Jérémy viendra nous rejoindre tout à l'heure pour dans la tête d'un fiche. Ce sera en fin d'émission et on a un beau programme. Alors dans un instant, on ira à Las Vegas. Greg Chauchon, le patron, parce que ça a démarré cette semaine.
Ouais.
Donc il sera avec nous pour nous dire comment ça a démarré. C'était le 26 mai, le début. On aura Julien Sidbon dans un instant. Il est déjà... Alors toi, t'es encore là. Alors toi, t'es celui qui parle le plus tard, Pierre, du Team Wina. Et lui, c'est celui qui arrive le premier.
Ouais, mais force est de constater que ça lui a réussi parce qu'il me semble qu'il a joué deux tournois.
Il a déjà fait de l'oseille.
Non, mais il a déjà fait un super deep run sur le 5 000 $ d'entrée. Mmh. Et là, il est du coup loin dans le 25 000 heads up. On y reviendra.
Exactement. On aura Romain Lewis également dans l'émission. L'aventure avec Wina, c'est terminé pour Romain. 9 années au sein du Team Wina. L'histoire s'est arrêtée cette semaine. On en parlera avec lui tout à l'heure. Ses impressions. Les tiennes d'ailleurs, parce que vous avez vécu ensemble pendant 9 ans, Pierre. Romain, c'est tout le monde le connaît dans le team, dans le monde du poker, un gars, on peut dire que tout le monde aime.
Ouais, un bien.
Et il va continuer son aventure tout seul. Ça ne veut pas dire qu'il va arrêter de jouer au poker et qu'il va arrêter d'avoir des résultats. Mais il n'est plus dans le team.
Mais je crois même qu'il va prendre cette distance avec le monde du poker. On pourra lui demander.
Ah bon?
Il va à Vegas là, mais je crois qu'après il veut mettre en parenthèse carrière de joueur de poker professionnel et aller vers d'autres cieux.
Très bien, très bien. Bon, on en parlera avec lui tout à l'heure. Donc, les WSOP, les championnats du monde à Vegas, ça a démarré. Déjà des tournois. On en est à... Alors, il y a eu l'Event 1, l'Event 3, l'industrie employée. J'adore le nom.
Ouais, c'est le $500 qui est réservé.
C'est celui des employés.
Ouais, c'est ça.
Ouais, mais j'aime bien le fait de l'industrie.
Ouais, mais là-bas,
ils ont toujours un nom un peu qui pète un peu. De l'industrie du poker. Donc, c'est réservé au personnel. C'est un $500, 900 joueurs, 906 très précisément. Jérôme Nepel a gagné $64 000. Si derrière, il doit bosser. Il démarre bien son mois.
Hein, je crois que croupier. Enfin, de toute façon, aux États-Unis, tous les salaires sont plus importants qu'en France, mais il me semble que c'est assez bien payé en réalité.
Il paraît que tu vas nous faire une ordonnance aujourd'hui.
Allez, avec plaisir.
Un malade va t'appeler tout à l'heure.
Avec plaisir. J'aime soigner. Ouais.
Écoute, moi, pour l'instant, ça va mieux.
Parce qu'on
s'est fait une petite étape répétée dimanche dernier du Riolo Poker Tour, et ça faisait un moment. J'avais besoin d'une victoire pour un peu de confiance. Elle est arrivée.
Ouais, mais du coup, t'as mis plus bas que terre, Jérém. C'est donc, qu'est-ce qu'il va nous concocter? Est-ce que la fin va pas être pourrie?
Jérémy, il a fait deuxième. Pour lui, c'est déjà très bien.
Tu m'as raconté que tu l'avais quand même humilié. Pas humilié.
J'appelle pas ça humilié, quand on fait piétiner, quoi. Quand on fait un beau hero call, ça n'est pas humilié. Il y a un monsieur qui veut te raconter une histoire. Tu ne crois pas à l'histoire et tu lui fais payer son histoire.
Ouais, non, moi,
c'est ce qu'il a fait, le bougre.
Je lui ai roulé dessus, j'ai
C'est ce qu'il a fait, le bougre. Voilà. Exactement. Dis-moi, Pierre, juste avant que Vegas ne commence, ça boue un peu côté poker. Est-ce que c'est en raison des championnats du monde qui viennent de démarrer que tu seras très prochainement l'invité du célèbre légende de Guillaume Play?
En réalité, pas spécialement lié au WSOP. Voilà, c'est un projet qui s'est fait un petit peu depuis ces derniers mois, quoi. Et puis c'est Winamax qui voulait que je sois leur ambassadeur là-dessus. Et c'était incroyable.
Moi, je suis pressé de voir ça.
Et eh ben ça va être.
T'as raconté tes histoires secrètes ou pas?
J'ai raconté mes histoires.
Il paraît que ça a duré 3 heures. Si en 3 heures t'as pas d'histoire secrète, Pierre, ça va pas aller. Hein.
Ça a duré 3h30 ou 4 heures. Effectivement, il y a pas mal d'histoires secrètes, notamment celle avec, tu sais, le fameux footballeur de Malaga. Je sais même pas si tu pourrais deviner qui c'est, toi.
Footballeur de Malaga, je te connais pas cette histoire, moi.
Tu connais pas? Que non. J'étais quand j'étais allé à Malaga en tant que joueur professionnel, j'étais tombé amoureux d'une fille qui était serveuse dans une boîte et j'étais en concurrence avec un joueur de l'équipe de Malaga qui à l'époque était encore en première division et un ancien joueur international qui avait joué l'Euro, la Coupe du Monde avec l'équipe d'Espagne et qui avait gagné cette bataille. Pendant six mois, on se l'était disputé. Et puis
joueur de foot, Pierre, tu pars de loin quand même. Hein. Sur un joueur de foot, tu pars de loin pour
l'histoire d'amour. C'était terrible. En plus, c'était la star de la ville.
T'as eu le cœur brisé?
J'ai eu le cœur brisé.
T'as même pas eu besoin de te briser parce que t'es pas arrivé à tes fins, de toute façon. Donc.
Si, je suis arrivé à mes fins. Mais en fait, beaucoup de gens arrivaient à leur fin avec elle. Donc bon.
Ah oui!
Malheureusement.
Oh mon Dieu. Autre actu pour toi. Et on en a parlé la semaine dernière, et ça c'est quand même un grand moment pour le poker dans notre pays, c'est qu'enfin, sur une chaîne nationale, une grande chaîne, on va pouvoir voir les WSOP cette année. Quatre épisodes du main event, donc le plus gros des tournois, tout le monde le sait. Plus deux épisodes sur la table finale. Tu vas commenter ça pour M6 et W9.
Ouais, ça va être, ça va être incroyable. Je tourne les premières scènes après-demain. Et puis voilà, c'est un honneur que d'avoir été choisi. Trop content de travailler avec Géraldine aussi. Et puis on va faire du
comment est ton binôme? Il connaît un peu le poker, le binôme avec qui tu vas commenter ou pas?
Ouais. je crois que oui. Et puis c'est grâce à mon binôme que j'ai été choisi. Mais normalement, on devrait faire une belle équipe. Et puis surtout mettre en valeur un petit peu. Ce beau jeu qu'est le poker, et puis ça sera aussi pendant la Coupe du Monde, donc ça va être cool.
Bien sûr, ton binôme était de la partie dimanche dernier. Ouais. Je peux pas dire que ce soit très très bien.
Déjà, quand ton binôme, tu fais un super hero call, tu dis, ah, moi j'aurais pas payé. Déjà, oh, ça va quoi.
C'est vrai qu'elle a dit ça.
Regarde et admire.
En tout cas, vous allez former un duo qu'on manquera pas pour les WSOP table main event, donc diffusé sur W9, puis sur M6 fin juillet et début août. Est-ce que Julien Cidbon est avec nous? Il paraît qu'il était en train de se faire un petit jacuzzi. Est-ce qu'il est sorti? Est-ce qu'il a mis la serviette autour de la taille? Tel James Bond sortant du jacuzzi, est-ce qu'il est avec nous, Julien?
Mais bien sûr que je suis là. Tu m'entends pas?
Il paraît que tu étais en train de relaxer dans un jacuzzi.
Avec Malcolm en plus de ça. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Comment ça avec Malcolm? Vous êtes à deux dans un jacuzzi?
Mais on est à la villa, tranquille, on a le droit d'être dans notre jacuzzi quand même.
Un peu nu.
Moi, je trouve ça gênant, mais bon.
Non, ça va. Tu ne viendrais pas dans le jacuzzi avec nous?
Ah non, jamais de la vie. Non.
Avec plaisir.
Et si vos jambes se touchent?
Hier, on était quatre. Il y avait Virgile et il y avait Nico aussi. Tu vois, on met beaucoup, beaucoup dans le jacuzzi.
Ah, j'espère qu'il est grand.
C'est vrai qu'au poker, il n'y a pas trop de femmes. On va se mentir. Les villas, c'est souvent 5 mètres.
Julien, honnêtement, on va parler poker, évidemment. T'es là pour ça. Mais moi, je veux savoir, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? T'étais où? Parce que pour toi, je sais que c'est un énorme moment. Je me demande si tu serais presque pas prêt à vendre un bracelet pour une deuxième étoile sur le maillot. Bref, comment t'as vécu l'événement?
On était tous à la villa, donc j'étais avec Malcolm, Nico et Virgile, et son frère. Et on était là en train de regarder à la maison tranquille, alors que j'avais le 25 à heads up qui démarrait à midi et que la finale était en prolongation. Ce match de merde là, avec putain Arsenal, quelle horreur, c'est vraiment pas du football.
Attends, excuse-moi, pour toi ça démarrait à 8h si je me gourre pas, non? 8h du mat au petit déj.
C'était à 9h, donc oui, ça 9, fait 9h, 11h. Et du coup, plus la prolongation. Donc 11h30, 11h45, et je suis parti, il était genre midi moins le quart, pendant les pénalties, c'est-à-dire que je regardais les pénalties dans la voiture sur la route.
Mais non!
Donc vraiment pas la folie. Et je suis arrivé, j'avais un décalage, et au moment où je suis arrivé hors chou, il y avait le pénalty de Nuno Mendes.
Ah, ça va.
Vas-y, je regarde et tout. Et... Ouais, ça va. Et Nuno Mendes, il rate jamais. Putain, je sais pas pourquoi je le sens pas. Et je sais pas ce qu'il a foutu. Et donc, je suis resté dans le bar tout seul au final, enfin, avec des gens qui étaient là-bas, et j'ai célébré ça, et je suis arrivé en retard au heads up.
Ils t'ont attendu ou pas?
Donc voilà.
Juste pour curiosité.
Ils ont attendu parce qu'en fait, il manquait trois. J'avais vu qu'il manquait des joueurs et je savais qu'ils démarraient pas à moins de 64 et on était 61. Donc je me suis dit, quoi qu'il arrive, ils peuvent pas jouer. Il y avait même pas eu le draw et tout. Ouais. Donc au final, ça allait.
Mais de toute façon, je pense. Ah, mais parce que t'as vu qu'il y en a un qui est pas venu quand même. Ça, c'est quand même exceptionnel. Il est tellement blindé. Ouais, mais... C'est un joueur de cash game qui joue dépôt à 3 millions de dollars. Bon, pour lui, c'est comme si tu joues à 10 balles. Ouais. Il s'est inscrit. Il n'est pas venu.
Mais non.
L'autre joueur a déclaré.
Il l'a appelé.
Ouais, il était à la sphère.
Ouais, j'ai fait la flemme. Ouais, il a dit vas-y, ouais, là j'ai la flemme et tout, vas-y. Ouais.
Donc en fait, au lieu de se
prendre
un Uber pour se désinscrire et reprendre les 25 000, il a s'est dit allez, c'est bon, ça m'a énervé.
Tu peux pas prendre un Uber et désinscrire, tu peux pas te désinscrire.
Ah ouais, bon, bah dans ce cas-là, tu prends un Uber et te dire je vais faire taper tout le téléphone.
Des fois, ces gens pour qui 25 000 dollars n'est rien.
C'est arrivé à Gustafsson aussi. Gustafsson qui a été au day 2 du 25 000 euros à Monaco.
Oui, mais ça, c'est parce qu'à côté, il était en train de plumer un mec.
Ouais.
Et que donc, il était beaucoup. Oui, ça, il était large.
Mais
l'histoire, elle tient la route. S'il y a un 25 000, je les abandonne, mais je sais qu'à côté, je suis en train de prendre 100, 150, en train de plumer un russe. Bon, ben pourquoi pas, je veux bien comprendre. Mais l'autre, juste parce que je vais voir un spectacle, non, je m'en fous de jouer
Je crois que c'est encore mieux ça, du coup, parce que ça veut dire que t'es vraiment plein, quoi.
Bon, ah oui, Julien, donc j'imagine grosse émotion. Vous étiez combien de supporters du PSG là? Regardez ça en même temps.
C'était quatre à la villa. Tous les quatre à la villa. Voilà.
T'as croisé Greg, on va l'avoir dans un instant. Bien sûr, j'ai croisé Greg. Il doit être en folie, quoi.
Non, il faut regarder avec Julien Mariani. Ça, c'est ce genre de
film. Non, c'est insupportable parce qu'imagine mon père, il devient fou.
Non, à zéro, regarde,
excuse-moi, à quoi ça sert d'encore entretenir une quelconque rivalité avec Marseille? Est-ce que ça tient encore la route?
Il n'y a aucun intérêt.
Julien Mariani,
ils ont compris.
Je veux bien comprendre que, évidemment, il était pour Arsenal, c'est normal, c'est bien légitime. Mais bon, qu'est-ce qu'il y a, tu vois, voilà.
Non, c'est fini, c'est fini. Il n'y a plus rien, il y a plus rien.
Non, mais c'est pour la narration.
Bon, est-ce que ça va te mettre un coup de boost, Julien, d'avoir vécu un tel événement?
Ça m'a mis un coup de boost, du coup.
Pour ce soir.
Ça m'a mis un coup de boost. Ah ouais, ça
donc,
m'a mis un
vous,
coup de
vous êtes encore, alors attends, pour être précis quand même sur ton histoire, on va revenir à toi. Vous êtes encore 16, c'est ça?
En gros, on était 64. Il y avait 64 joueurs au premier jour 1A. Il y en a eu 8 qui sont passés. Et hier, on était 64. Et on est 8 à être passés. Du coup, on n'est plus que 16.
Mais c'est
et
exactement pareil qu'un grand chelem. C'est exactement pareil qu'un grand chelem.
Et les quarts de finale. Ah,
c'est ça. Alors attends, on n'a pas dit que c'était
en fait, écart aujourd'hui.
On n'a pas dit que c'était le tournoi des championnats du monde de heads up.
C'est du 1 contre 1. C'est exactement que, alors, pareil qu'un grand chelem.
Moi, je trouve que c'est assez fantastique parce qu'il faut se figurer que c'est une sorte de tableau. Comme tu le dis, un tournoi du Grand Chelem.
Pareil que Roland.
Et en gros, je bats un tel, je bats un tel, je bats un tel, je bats un tel, et puis après, tu te retrouves. Et c'est quoi le field de ce genre de tournoi?
C'est des top.
En fait, il y a des règles de cash game top monde. Il y a les règles de top monde MTT aussi. Et puis, il y a des gens un peu qui viennent kiffer quand même. Et voilà, il y a quand même des récréatifs, pas énormément. Il y a des mecs qui jouent cher et qui viennent s'amuser.
Bah, c'est un 25 000 quand même, hein. On rigole pas au niveau du buy-in.
C'est 25 000 heads up surtout. C'est quelque chose que personne joue vraiment bien parce que, bah, il faut le travailler. On joue très très peu de heads up dans une carrière de joueur de poker MTT. Et du coup, bah voilà, il y a des joueurs spécialistes de ça. Et donc, ça fait vraiment la différence et tu vois tout de suite quand ils jouent. Et en parallèle, bah, il y a un peu de, des mecs qui viennent kiffer, quoi.
À 16 left sur 64, t'es déjà dans l'argent?
Ouais. Non, 16 left sur 100, on n'est pas 64, on est 62.
64 premier jour, donc, 64. Oui.
Là, c'est l'argent. Là, on est assuré de 60 000 dollars et il y a 750 000 à la gagne.
Ouais. Impeccable, ça.
Non, mais et là, les heads up, ils vont commencer à avoir là beaucoup de sous. C'est que c'est les paliers, ça doit être 100 000 à chaque fois, là. Enfin, pour le premier palier.
En gros, ça fait 60, 140, ouais, tu vois, 140, 333. 333, 550, 550, 750.
Donc là, chaque tour que tu joues, ça va valoir entre
60 et 80 et 150K.
Dites-moi si je me gourre. Évidemment, le heads-up, on sait que c'est une technique qui est très particulière. C'est un jeu quasi un peu différent. Mais comme tu l'as dit, Julien, on peut avoir eu beaucoup de résultats au poker et tout. Mais finalement, des heads-up, on n'en joue pas tant que ça dans une vie.
Exactement.
Bien sûr.
Donc, comment tu te prépares? Et est-ce que le jeu est vraiment différent? Pardon, la dernière question que je complète, est-ce que la variance est plus importante que dans le reste du jeu quand on fait heads up?
Enfin, je sais pas si je peux dire la variance, mais le truc c'est que les mains sont tellement plus, l'éventail de mains est tellement plus large, ça veut dire que tu dois jouer forcément différemment avec beaucoup plus d'agression, beaucoup plus de défense, c'est-à-dire que tu vas payer des mains que tu paierais jamais normalement parce que justement, bah, il faut se battre. Après, ce qu'il faut savoir, c'est un heads up sans ante, donc il y a quand même une différence. Donc ça, c'est quand même très très important aussi. Et puis c'est aussi dépendant du profil que tu vas jouer parce qu'il y a des joueurs qui connaissent la théorie très très bien parce que ce sont des tops de heads up. Et puis il y a des joueurs de MTT qui du coup vont pas s'adapter, pas à 3-bet les bons trucs. Enfin, moi par exemple, je suis un joueur de MTT, j'ai quand même un peu bossé avant pour ça. Et voilà, après j'ai eu la chance de tomber sur des profils qui étaient très très bien pour moi parce que je tombais sur Martin Cabrel, Martin Zamani et un top américain de cash game de HU, mais lui ça s'est bien passé au début. Les deux autres c'est des profils de live qui étaient pour moi plus faciles à analyser, à exploiter. Et du coup voilà, j'ai hâte de voir ce que va être le prochain tour et contre qui je vais tomber, mais c'est cool, quoi.
Et il a pas été trop relou Cabrel en heads up? Il est comment? Il est quand même une femme normale ou en heads up il fait quoi en fait?
Parce il est encore pire parce qu'il parle qu'à toi. Mais j'avais ma stratégie, quoi.
Et alors vas-y, raconte parce que ça c'est fou. Et alors pour de vrai, dans le tournoi heads up, il est face à toi, il est comme quand il est une table avec 8-9 joueurs, il est sans arrêt en train de parler.
Ouais. Oh, le relou, en train de te parler.
Mais même des fois un peu tactile, des fois. J'ai commenté pendant le day 1A, il jouait contre un japonais, un streamer japonais.
Mais t'as le droit d'aller toucher le gars?
Il passait derrière lui, il touchait limite, ouais, c'était.
Il a fait pareil chez moi, il passait derrière moi, tu vois. Il se levait, à chaque fois qu'il était pas bien, il se levait, il venait pour faire le tour, etc., tu vois.
Et on n'a pas le droit de lui dire, mais va t'asseoir, arrête de me saouler.
C'est dur. C'est dur, tu peux.
En fait, moi, je lui dis, quand il me dit des trucs, il y a des trucs que je veux pas répondre. En fait, j'avais ma stratégie, c'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai su que je jouais Cabrel, en fait, j'ai gagné mon premier HU assez rapidement. Donc, je suis rentré, j'ai vu que j'ai joué contre Cabrel et j'ai regardé la veille, justement, ce qu'il avait fait contre Masato, certains spots, comment il se comportait physiquement, etc. Et donc, ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, bah, j'ai eu des infos directes et ça m'a aidé sur place. Donc, il y a plein de choses qu'il dit ou je sais pourquoi il les dit. Donc, j'avais prévu de pas parler du tout et juste à certains moments précis parler pour diverses raisons. Et donc, je suis pas rentré dans son jeu et je l'ai laissé parler, il débitait, et moi je prenais les infos. Ouais. Parce que si tu rentres dans son jeu et que tu te mets à parler, bah du coup tu perds le focus et tu perds l'attention que tu as sur lui. Et moi j'avais décidé que j'allais tout capter, toutes les infos que j'avais vues au préalable.
Putain, pour pouvoir adapter ma stratégie.
Non, non, parce qu'en fait,
mais j'ai répondu. Il y a des trucs à quoi tu réponds, mais pas n'importe quoi. Tu vois, je sais par exemple, le croupier, tu vois, tu mets les jetons, c'était loin pour lui. Et à chaque fois, moi, je le poussais un peu. Il me disait, vas-y, Julien, ça se fait pas, pousse les jetons, tu vois pas, c'est pas agréable, fais-le pour lui, etc. Alors que je le faisais, tu vois. Il faisait ça exprès pour me sortir de ma zone et continuer. Je répondais pas, je mettais mes jetons tranquilles, etc. Et en fait, chaque chose qu'il va faire, tu vois, par exemple, le heads up, j'ai, en gros, comment s'est passé le premier HU? Je jouais contre un mec et il y avait Cabrel à côté à ma droite qui jouait contre un autre. Et il dit, vas-y, Michael, le mec est tombé, il dit, vas-y, bat Julien, bat le Frenchman, je veux pas jouer contre lui, vas-y, bat-le, de toute façon, tu vas le battre. Et je suis monté à 296 000 jetons contre 4 000 jetons.
Ouais.
Il avait 4 blindes, le mec. Et là, il me dit, putain, je suis pour lui, je veux voir les heads up. Et le mec a remonté de 4 000 à 150 000.
Ah, putain, ouais, t'es
mal. Là, je me suis dit, putain, ça va être solide mentalement, faut que je m'accroche. Et j'ai gagné le heads up. Et quand j'arrive contre Martin, je lui dis, tu sais qu'il est remonté jusqu'à 150 000. Il me dit, ah ouais, putain, c'est chaud, etc. Et là, dans le heads up, je suis contre Martin, et à ce moment-là, j'ai genre 200, enfin, j'ai genre, je sais pas, 500, et il lui reste 100 000 ou comme ça. Mmh. Et là, je sens qu'il est pas bien mentalement. Tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, ça t'a fait quoi quand il est remonté de rien du tout à l'heure? Donc en gros, il est reparti prendre la même anecdote pour essayer de me remettre dans cette zone de putain, tu peux encore prendre ce risque-là, tu vois.
Ouais.
Donc il est vraiment très très fort et tout. Je lui ai dit, t'es fort. Hein. Je lui ai dit comme ça, t'es fort. Hein. Et du coup, après, ça m'a pas sorti parce que je savais à quoi je m'attendais, tu vois. Mais le mec, il prend tout ce qui est possible, tout ce qu'il peut faire, quoi.
Non, mais il est simple. Enfin, au final, marrant, nous, on l'a eu dans l'émission. Oui, t'imagines pas aller t'engueuler avec lui, mais à des fois, t'as envie de dire, tu veux pas fermer ta gueule, quoi.
C'est ça, mais en grand public, il est ok, les gens ils le kiffent parce qu'il fait de l'animation. Ce qu'il y a juste, c'est qu'il faut vraiment être préparé à ce que tu vas faire contre lui.
Et non, mais en fait, ce qui est un petit peu gênant aussi, je trouve, c'est qu'il ne laisse pas la place aux autres. Donc, c'est-à-dire que toi aussi, t'as envie de kiffer ton moment. Par exemple, quand t'es en tape télé, toi aussi, t'as envie de kiffer ton moment. Toi aussi, t'as envie d'en placer une. Clairement. Toi aussi, prendre un peu de l'énergie et de la place. Et il ne te laisse pas le faire, ce qui est presque, en fait, du non-respect pour ton espace vital, en fait, et pour ce que toi, tu voudrais exprimer. Donc, moi, je trouve ça un petit peu dommage. Je trouve ça un petit peu dommage.
Il t'étouffe. Mais il n'y a pas que ça, surtout. Non, mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on joue avec des time banks. Et quand tu réfléchis, te parle pour pas te laisser la possibilité de réfléchir, en fait. Ouais. Quand il y a des spots, justement, je sais pourquoi il fait ça souvent. Il t'empêche de réfléchir et de prendre la bonne décision. Donc, toi, t'es là et tu dis merde, c'est un call normalement. Vas-y, tant pis, payé. Ou alors, vas-y, tu vois, et tu commences à bégayer et tu perds ton raisonnement de pensée, des choses que t'as vues et des choses que t'avais analysées. Et c'est ça qui est catastrophique parce que ça te nique ton plaisir de jeu aussi. Mais voilà, il faut se préparer, quoi.
Et dis-moi, dans ce tournoi-là, pour aller au bout, faut gagner combien de duels?
7.
Et c'est beaucoup et en même temps, tu dis.
Il y en a un qui va le faire. Hein.
Pour gagner un bracelet, c'est le chemin le plus court, non?
Ouais, mais c'est quand même très dur. Hein, c'est une chance sur deux.
Je te dis pas que c'est pas dur. Le parcours, en fait. Le parcours,
en
il
fait,
a l'air.
Le parcours, oui, ça paraît plus rapide. Et encore, l'année dernière, c'était 6 parce qu'il y avait que 64 joueurs, donc c'était un peu plus facile. Mais là, il y en a 7 à gagner.
Mais pourquoi il y a si peu de joueurs qui font ce tournoi, finalement?
Mais déjà, c'est capé à
25 000.
Voilà, c'est très très cher. Avant, c'était 10 000. Hein. Et là, ils l'ont augmenté depuis 3-4 ans, 3 ans. Bon, après,
c'est pas un bracelet que Fitoussi avait gagné, Bruno, il l'a gagné?
Non, pas du tout. Non, c'est Alex Cheneau. Non, en fait,
le HU, il avait pas gagné un championnat.
C'est un des bracelets. C'est un bracelet le plus facile à gagner, non pas parce que, il y a que 7 tours à gagner, mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs, d'accord? Mais par contre, les joueurs qu'il faut que tu battes. C'est chaud, mec.
Bonne chance, quoi.
C'est chaud.
Et puis, il n'y a pas que ça. C'est que c'est pas un heads-up où il y a une tonne de. Il y a de la variance, certes, mais on démarre avec 250 blindes. Ça veut dire que 250 blindes, tu peux en perdre des coups avant de sauter, quoi.
Ouais.
Tu vois? Donc, il va y avoir moins de variance dans le sens où il y a des gens qui seront moins forts qui vont augmenter la variance. Et c'est ça qui est très intéressant. Moi, j'ai joué un coup hier contre Zamani parce que moi, je le connais bien et je sais qu'il allait faire un peu de la merde. Où en gros, j'avais paire de dames sur un board valet 8-5, et au final, j'ai mis 820 blindes. Il a mis 220 blindes sur avec ce coup, quoi, sur valet 8-5, 4-2. Et 220 blindes. Tu t'imagines, Daniel, toi avec 30 blindes, t'en mets même pas 5. Non, mais c'est vrai. Non, mais il avait 8 et 6, Daniel.
Ouais.
Pour re-raise au flop.
Mais Daniel, parce il faut le justement, de
voilà, déjà. Après, il a.
Excusez-moi, deux secondes, le chambrage. Hein. J'ai
battu. Non, c'est pas une insulte.
J'ai battu Jérémy Servin au heads-up dimanche dernier.
Non, c'est pas
une référence. Julien, est-ce que c'est une référence?
Ouais, c'est
une référence. Mais Daniel, c'était tout sauf une insulte, justement.
Mais arrête, blague, voyons.
T'aurais bien fait. Non, mais t'aurais bien fait, toi. Lui, il a mal fait. Mais c'est pour te dire qu'en gros, tu peux augmenter la variance ou la limiter, si tu veux, et ça peut durer des heures et des heures. Donc, c'est un jeu, quand même, où il faut quand même être solide et il faut pas se tromper. Mais t'as le temps.
J'ai l'impression qu'on entend l'eau qui remue. T'es encore dans le jacuzzi ou quoi?
Ouais, c'est parce qu'il y a mon câble qui est tombé.
Bien sûr, je suis en train de. Non, mais c'est exceptionnel.
Ouais, c'est moi qui
fais. Le mec, il a fait deux tournois, il a pris 85 000. Laisse-moi dire qu'il est dans le jacuzzi, mon gars. Il est en train de fumer un petit cigare. Il est bien, on sort en quel bar, là.
Julien, ça a bien démarré, ce Vegas. Comment ça fait? Tu pars toujours si tôt?
Je pars toujours pour le début. J'aime bien jouer le premier 5K et j'essaie d'arriver un jour avant pour me préparer. Mais je sais, j'aimerais arriver plus tôt avant, mais c'est pas possible. Mais ouais, j'arrive la veille et je démarre le lendemain direct. Ouais.
D'accord. Mmh. Bon, bah écoute, t'as non, un bon sûr. Début là, ça a bien démarré, t'es
ouais,
bien.
Mais ce qui est bien, c'est que t'as déroulé.
Tu veux pas nous le gagner ce bracelet là?
Bah, c'est le plan, enfin, c'est ce que je vais essayer de faire en tout cas.
Non, mais ce qui est trop, aussi très très cool avec
dimanche,
ce tournoi.
Dimanche prochain, on est là, moi je te mets en vainqueur, moi.
Ce qui est très cool avec ce tournoi, c'est qu'aussi, ce que disait Julien, c'est que t'as le temps d'analyser tes adversaires parce que tout est streamé.
Clairement.
Donc tu peux voir en fait, là il avait tellement. Nous, on avait la chance de commenter Cabrel aussi au premier tour.
Clairement.
En fait, tu voyais clairement que son tempo de parole, quand il à un moment, il touche une ventrale. Il s'est freeze pendant une seconde.
Mais oui.
C'est un truc de fou. Tu peux voir plein de choses.
Ça bouche en cul de poule.
Ouais, c'est un truc de fou. Non, mais c'est un truc de fou. Si non, tu vois comme ça avec les cartes, c'est un truc de malade.
Non, mais au-delà du stream, quand tu joues un heads up qui est 250 deep, tu vas avoir plein de petits coups. Moi, j'ai payé un premier coup, je savais que j'avais perdu parce que j'avais vu le même tel en télé, je voulais juste vérifier. Ça m'a coûté 6000 jetons, 3 blindes, j'ai vu qu'il avait, du coup, j'ai pu garder ça pour plus tard, tu vois.
Dans le pot à 100 blindes, tu l'as foldé. Ouais, bah
voilà, exactement. C'est exactement ce que j'ai fait derrière. J'ai foldé dans un pot à 35 blindes ou 40 blindes.
Julien.
Oui, dis-moi.
Je te laisse retourner à ton jacuzzi. Franchement, on t'envoie les je sais même pas ce qu'on peut t'envoyer tellement j'ai envie que tu gagnes ce bracelet. Je veux que tu reviennes la semaine prochaine dans le RMC Poker Show. Je viens pas à Vegas cette année, j'aurais adoré faire la fête avec toi pour fêter ça.
Putain.
Eh non, il y a la Coupe du monde que j'imagine tu vas suivre aussi parce que je sais que tu es fan de foot. Même si après la victoire du PSG, on pourrait très bien s'en foutre. On pourrait dire maintenant, advienne que pourra. Wow, on a la deuxième étoile, tout va bien. Hein.
C'est ça. On prend l'autre étoile sur le maillot de l'équipe de France. Mais bon, on verra bien. En tout cas, juste s'il vous plaît, faites un petit bisou à Rome. Et je vous embrasse. Et
Romain sera avec nous un peu tout à l'heure. Et oui. Là, dans un instant, c'est Greg Chauchon qui sera avec nous. On marque une petite pause. On revient lui aussi. Il a dû se réveiller pour le petit-déj et poursuivre la finale, puisque c'est un grand supporter du PSG. À tout de suite.
Jusqu'à 1h, c'est RMC Poker Show.
Daniel Riolo.
Voilà. On revient pour la deuxième partie du RMC Poker Show. Pierre Calamusa est avec moi ce soir. Mundi n'est pas là. Un petit repos pour lui. Mais les championnats du monde de poker sont là. D'ailleurs, il partira, Mundi Riolo. Hein. Je crois même qu'il arrive avant toi, Pierre. Parce que toi, tu arrives tard.
Ouais, non, moi,
tu as un petit programme à 5 tournois, toi.
Ouais, tu sais, tous les ans, je fais 5-6 tournois, pas plus. Donc, c'est pas du tout le même rythme que les autres.
Et on rappelle surtout que tu vas commenter le main event cette année et que ça, c'est un grand événement auquel a forcément pris part le patron des WSOP, Greg Chauchon, qui est avec nous. Salut, Greg.
Salut les gars, comment ça va?
Salut Greg.
Bah écoute, ça va bien. Je pense que toi aussi tu vas bien. Je pense que tu t'es levé un petit peu plus tôt que d'habitude hier matin et qu'au petit déj. Est-ce que t'as pris le petit déj avant ou pendant la finale?
J'ai pris un café à la mi-temps, mais je tenais plus avant. J'arrivais pas à manger ou boire quoi que ce soit. Tu me connais, je suis un peu tendu, donc je bougeais pas, tu vois. J'étais.
Mais est-ce que ta journée de travail avait déjà commencé?
Ouais, mais j'avais coupé le téléphone. Les gens disaient pourquoi tu réponds pas, mais je coupe.
Et alors t'étais chez toi ou t'étais déjà au Paris?
Non, j'étais chez moi. Cette année, j'étais chez moi. Je t'ai dit porte fermée. Il y avait Julien Sidbon qui essaie de m'appeler en me disant mais s'il y a une prolongation à midi,
tu peux décaler le tournoi.
Il voulait que tu décales le tournoi.
Tu peux le mettre à midi et demi, s'il te plaît. Non, mais ou le lendemain, parce que si on gagne, j'aimerais bien célébrer. Non, mais
est-ce que tu lui as répondu fais pas chier, laisse-moi regarder la finale?
Alors c'est exactement ça, mais après j'ai dit mais t'es fou, tu m'envoies un message, tu crois que je vais te répondre pendant le match? J'ai aucune chance.
Est-ce que tu sais si à Vegas ça a été suivi? Est-ce que tu sais si des bars ont diffusé la finale? T'as des infos là-dessus?
Ouais, et puis plein de gens sont venus m'en parler. Évidemment, le seul problème c'est l'horaire, quoi. Ça m'a rappelé la Coupe du Monde, tu sais, de Russie là. Les matchs étaient à 7-8 heures du matin, la finale de la Coupe du Monde était à 7-8 heures du matin. C'est quand même violent si tu réfléchis en France. Quelles seraient les audiences d'un match à 9h du matin? C'est quand même particulier, quoi.
Après là, 9h pour toi, je m'imagine, hein, si j'étais venu à Vegas, 9h, je trouve que c'est un horaire nickel. Je m'imagine bien dans un bar restant en train de me faire un petit déj. Je trouve que c'est un bon horaire, 9h, c'est pas mal.
T'as raison, c'est assez tôt pour aller.
On serait allé aux favorites avec nos amis marseillais. Ouais. On les aurait vus faire la gueule. on aurait été sur la terrasse.
Ouais, t'as pas toute la journée à stresser aussi où tu te dis à quelle heure va être le match, etc.
C'est vrai, c'est vrai. Bon, après, tu peux aussi ne pas dormir aussi. Hein, dans un truc pareil aussi. Hein.
J'avoue.
Bon, mais maintenant, t'es libéré, Greg. Bah, attends, encore que maintenant, il va y avoir la Coupe du Monde et ça aussi, je sais que tu suis. Il va falloir que tu jongles un peu parce que tu vas avoir tellement de joueurs de nationalités différentes. Comment tu vas organiser la Coupe du Monde? Tu vas organiser quelque chose? Comment ça va se passer?
On a un écran, je vous enverrai la photo, mais dans la nouvelle salle du Horseshoe, il n'y a plus, tu sais, la salle télé. On a mis un écran horizontal. sur lequel on peut mettre 5 ou 6 matchs en même temps, tellement il est large en fait.
Okay.
Et donc l'idée c'est de pouvoir montrer tous les matchs de la Coupe du Monde pendant que les gens jouent, parce que c'est vrai qu'il va y avoir des matchs toute la journée. On a même des matchs à 10h du matin, tu sais, puisque c'est, ouais, il y a des matchs à 13h sur la côte Est. Mmh. Donc ça fait 10h chez nous, donc on est en train de se mettre en mode pour... on sait qu'on a des gens du monde entier, de tous les pays, et qui veulent voir les matchs, donc... Ouais,
est-ce que une compète comme la Coupe du Monde, ça a un impact sur vous, sur votre travail, sur l'orga ou pas?
Ça a un impact au moins sur les gens veulent voir les matchs, les gens veulent pas rater les matchs. Je pense que si on les mettait pas, on pourrait avoir des gens qui, tu vois, arrivent plus tard parce qu'ils veulent voir le match de leur équipe. Donc je pense que c'est plus ça. Puis ça donne une bonne ambiance, si tu veux, au lieu d'avoir des matchs de baseball dont tout le monde se moque. Il y a quand même un côté, la Coupe du Monde, c'est quand même un truc un peu particulier, quoi. Et donc même si t'es pas fan de foot, c'est un truc que tu suis. Comme hier, il y avait le match 7 de Wemby.
Ah oui.
Tu vois, c'est pareil. Les gens, tout le monde, la terre s'arrête pour regarder ça, tu sais, à Vegas.
Et l'impact de fréquentation, il y en a un? Coupe du Monde de foot, moins de gens qui viennent jouer ou pas du tout?
Je pense pas. Plus, je te dis, sur les horaires, etc., mais je pense pas qu'il y ait des gens qui caratent. Ce que je disais, un joueur de poker qui a le temps et l'argent, il peut pas rater les World Series, quelle que soit la raison, quoi.
Ouais, puis surtout qu'il peut les suivre, quoi. Et dernière question qui lie poker et foot. Du coup, il va arriver un petit peu plus tard, alors, cette année?
quoi que, si
le bon
match et puis s'en va, on a déjà des bêtes sur la. Ouais, mais on espère que au-delà de Neymar et du Brésil, t'as quand même tous les joueurs qui sont sur place. Ils ont quand même les vacances juste après. On se dit qu'il y a quand même quelques.
Ah, il y a moyen de récupérer.
Qui peuvent débarquer, quoi.
Et c'est quoi les bêtes là? Tu disais on a déjà des bêtes. C'est quoi? On a
non, déjà... sur à combien de jours après le fait qu'ils aient sauté, il va débarquer à Vegas, quoi.
Est-ce combien de jours après le début de la Coupe du Monde il va arriver? Parce que s'il est blessé,
il va aller dans le groupe, non? Si jamais.
Ah, tu veux dire en tant que mascotte?
Ouais.
Déjà, il y va en tant que mascotte.
Je pense, hein.
Il y a
une
mascotte, putain, t'es dur, là.
Faut pas qu'ils aillent en finale, quoi.
Pas sûr qu'ils puissent jouer, en fait. Ah, j'adore le bet sur combien de jours après le début il va arriver à Vegas. Magnifique. Bon, ça a démarré le 26 mai, les championnats du monde, Greg. Est-ce que t'as une première impression, comme ça? On est quelques jours après. L'ambiance, les gens sont déjà tous arrivés ou pas du tout? On est encore dans un début.
C'est assez habituel. C'est-à-dire qu'on est dans un mélange entre. Évidemment, il y avait le tournoi, le Mystery Bounty à 550 qui a fait plus de 20 000 joueurs, donc qui est quand même très 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 bien. On se rend plus compte, tu sais, nous on se disait, si on pouvait faire 25 000, 30 000, mais 20 000 joueurs, c'est quand même monstrueux. Donc c'est quand même un super résultat. Et pour te dire, oui, il y a les quelques gros joueurs, Julien disait le heads up a très bien marché. Il y a les tournois un peu chers, donc les gros joueurs sont déjà là. Et on va dire que les joueurs plus récréatifs, on sait très bien comment ça fonctionne, c'est chaque week-end. Hein. Donc là, on a eu du monde ce week-end. La semaine prochaine, il y a le Monster Stack. Donc, je veux dire, il y a toutes les semaines, il va y avoir quelque chose. Et puis, les gens font des allers-retours. Donc, je suis pas ni inquiet ni excité sur la fréquentation. Maintenant, avec le temps, j'ai appris à prendre du recul là-dessus, comme on disait sur les chiffres.
Et puis, c'est parti pour être long. Hein, début mardi 26 mai, fin 13 juillet, plus finale, TF du Maine décalé. Début août, c'est de grands WSOP qui s'annoncent cette année, avec un Pierre Calamusa au commentaire de la TF pour la France. C'est beau, Greg, ce que tu nous as préparé cette année. Quel regret j'ai de ne pas venir à vous rejoindre. Ça va me manquer.
Ce plateau, cette production, c'est vraiment le leitmotiv de cette année, le paquet. J'ai vu que Pierre avait commenté la première table, malheureusement très tard. Je disais hier, ils ont commencé
tard. C'était chaud. Hein. On a fait commencer, arriver en studio à 3h. On a terminé à 14h. J'étais sur satellite, mais par contre, qu'est-ce que c'était kiffant. C'était tellement bien.
T'es comme un boulanger, Pierre.
Ouais. mais en fait, c'était assez kiffant parce que ils nous ont envoyé une espèce de best-of de toutes les mains. Du coup, il y avait beaucoup d'action. Les images étaient très belles. Enfin, on s'est régalé. Les profils étaient fous. Donc, c'était vraiment sympa.
Très bien, Greg. Bravo. Et je te laisse accueillir tous les joueurs français qui vont venir, toutes les nationalités. Combien tu as envie de faire fais-nous un petit bet sur le nombre de Marseillaises que tu vas lancer cette année.
3. Je suis optimiste cette année.
Ah, c'est pas beaucoup, 3.
Zéro l'année dernière.
Ok, excusez-moi, j'avais
envie. J'ai vu quelques Français déjà quand même. Jean-François Rial est là, il est dans le.
Oh
dans le... Ouais.
Wow.
Avec avec Carlos Da Silva.
Et il dit rien.
Tous les deux, ils sont là.
Voilà, Jeff Rial, il arrive à Vegas.
Il faudrait qu'on le revoie.
Bravo, j'ai même pas reçu un message, rien.
Ouais.
T'attends des persos un peu spécial, des spécial guests cette année?
Aguero.
Mais ça, c'est pas un spécial guest, il est là tous les ans, il est là tout le temps.
Ouais, c'est en fait, ouais, il est plus joueur de poker monde, que. Ouais, avec, pour l'Argentine.
Ouais, avec la Coupe du Monde, on sait jamais, trop ce qui se passe.
Il sera pote de Messi et tout, il sera là, il sera avec la team.
Ah ouais.
Même quand ils ont gagné la Coupe du Monde.
Bon, ça dépend s'ils vont loin aussi. Bah, après,
c'est l'élimination qui détermine.
Il est noirci, hein. Tout le monde. Il y aura Neymar et Guerreiro dans 3 jours, là.
Si on pouvait avoir le Curaçao en finale, ça m'arrangerait, ouais.
Oui, tu veux dire que oui, c'est des joueurs un peu moins connus. Même s'ils venaient, on le saurait pas.
Non, et puis la Coupe du Monde, comme tu disais, ça attire aussi beaucoup de célébrités, de sportifs retraités, de tu sais, qui font les commentaires. Il y a quand même beaucoup de gens qui viennent aux États-Unis cet été. Donc,
t'attends qui alors? T'attends qui, Greg? T'attends qui? Il y a un nom?
J'ai pas de nom particulier, mais juste je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont là. Mais moi, mon rêve ultime, j'en ai parlé, ça fait un moment que j'en parle, c'est Timothée Chalamet, qui est un grand fan de poker.
Ah bah alors, qu'est-ce qu'il fait? Comment il peut ne pas venir?
Il est français en plus. Bon, supporter de Saint-Etienne, ça c'est un peu plus compliqué. Donc,
super match contre Nice.
Ouais, c'est vrai. Du beau football.
Ah, c'était beau super football. L'allée surtout.
Bon, Greg, on t'embrasse. Et puis c'est tout. J'aimerais bien te dire à bientôt, mais ce n'est pas à bientôt. Donc, amusez-vous bien sans moi à Vegas, Greg.
Tu nous manques et puis on regardera, il y a la table télévisée quand même qui reste dans la famille. Ça va être intéressant sur M6 et W9. Ça, je suis très excité par ça aussi.
Absolument, ouais. On en a parlé déjà avec Pierre tout à l'heure. Et le binôme va bien fonctionner.
Ça, c'est sûr.
J'espère, je suis très confiant.
Ciao Greg, à bientôt. Bye bye.
À très vite.
Ciao, merci. Ciao. Et on enchaîne avec Romain Lewis qui nous rejoint dans le RMC Poker Show. Salut Romain.
Salut Daniel, salut tout le monde. Vous allez bien?
Très bien, très bien. Et toi? Alors, on l'a appris cette semaine. Pierre était déjà au courant. C'est la grande nouvelle. 9 ans au sein du Team Wina. L'aventure se termine pour toi. J'imagine que ça a dû être un moment fort en émotion quand même, parce que c'est une partie de ta vie finalement.
Ouais, c'est une même partie de ma vie. Après, c'est pas quelque chose qui a été soudain. C'est quelque chose auquel je réfléchis depuis un moment. C'est 11 ans de poker depuis que je suis sorti du bac. Donc, c'était pas soudain, mais par contre, ouais, pas mal d'émotions. Là, j'ai annoncé sur les réseaux et j'ai reçu un nombre de messages, un nombre de personnes qui m'ont écrit des longs pavés pour dire à quel point je les avais influencé, à quel point je les avais fait kiffer, quoi. Et j'avoue, du coup, pas mal d'émotions ces derniers jours, juste à être sur les réseaux et tout. Mais ouais, une très belle aventure qui se termine. Toutes les belles choses dans la vie ont une fin.
Qu'est-ce qui t'a marqué durant ces 9 ans? Parce que être dans le Team Wina, ça n'est pas que jouer au poker, ça n'est pas que jouer les tournois. Tu as eu beaucoup de très bons résultats durant ces 9 ans. Mais quand on est dans le Team Wina, on devient également une personnalité un petit peu plus connue. On est suivi, on participe à des shows type dans la tête d'un pro. On est plus qu'un simple joueur de poker anonyme. On est un petit peu plus que ça. Est-ce que tout ça, ça t'a plu?
Ouais, carrément. Et c'est pour ça que je pense que je suis resté autant d'années. C'est parce que je le voyais pas forcément comme un travail ou un travail difficile. Je voyais ça comme une aventure humaine. J'ai rencontré tellement de personnes. Bah, je pense que c'est ce que Pierrot, il adore aussi, et que on a tous la chance, en vrai, de faire autre chose que ça, simplement jouer. Parce que, ouais, la vie de joueur de poker, ça peut être difficile si on est tout seul dans notre coin. Et nous, je pense qu'avec Wina, ça nous a permis réellement de s'ouvrir à différents horizons, rencontrer plein de gens différents. Et ouais, c'était avant tout une aventure humaine assez incroyable, quoi.
Pierre, tu nous as dit tout à l'heure, quand un membre comme ça du team s'en va, c'est un petit bout d'aventure humaine que vous avez partagé ensemble, quoi. Mais après, il reste, tu vas continuer à jouer au poker, Romain. Tu seras à Vegas cette année?
Ouais, bien sûr. Après, je vais peut-être réduire la cadence. C'est-à-dire qu'avec le contrat, forcément, je me définissais comme joueur de poker et j'étais la grande majorité de mon activité. Donc, je vais forcément au moins 9 ou 10 mois dans l'année. Là, je vais peut-être baisser, quoi. Je vais faire un mois à Vegas au lieu de 2. Je vais peut-être jouer 2-3 mois dans l'année, je dirais, au lieu de 9 ou 10. Et je vais voir ce que la vie a à offrir.
Est-ce que tu vas avoir un nouveau métier, entre guillemets, et continuer à jouer au poker, genre sur le côté un petit peu, et ne plus être vraiment, que ce soit plus vraiment ton activité principale, ou est-ce que tu vas rester joueur de poker et peut-être développer une autre activité, mais mineure?
Ouais, après, ce qui est sûr, c'est que je vais prendre un peu de temps. Je vais pas me précipiter à fond dans un domaine ou dans un autre, mais j'ai toujours eu l'ambition de faire autre chose. Ouais, je m'étais jamais vraiment dit que je serais joueur de poker full-time toute ma vie. Ce qui me fait marrer, c'est que Tapis volant, il a ressorti dans son article de fin que mon tout premier blog que j'ai écrit sur Wina, j'avais écrit une phrase du genre « Au risque de vous décevoir, mon objectif n'est pas de devenir le meilleur joueur de poker du monde, parce que j'avais déjà conscience que ça me prendrait tout mon temps et presque toute ma vie, et que justement, je me voyais jouer 5 ou 10 ans à fond et sûrement faire autre chose vers ma trentaine. » Donc, je suis toujours resté un peu dans cette optique-là. Et bon, un métier, bon, tu me connais, Pierrot, je pense pas que je serais dans une optique d'un métier, on va dire, entre guillemets, standard, mais peut-être pourquoi pas créer quelque chose. Ouais, il y a rien de sûr encore, je vais prendre un peu le temps, mais ce qui est sûr que c'est le mois prochain, au WSOP, eh ben, ce sera mon métier encore, oui.
Romain, quel est ton meilleur moment durant ces 9 ans? Je sais pas si le meilleur moment correspond au meilleur résultat. Donc à toi de nous dire s'il y a concordance entre les deux. Et sinon, quel est donc ton plus beau momentum durant ces 9 ans dans le Team Wina?
Ah, c'est une bonne question ça. Je pense que...
Le bracelet, non?
Ouais. Le bracelet, c'était un moment très marquant, forcément. Après, est-ce que c'est le
donc
meilleur
moment? Donc c'est 2021.
C'est un beau tournoi, un 10 000.
Le bracelet, ouais, c'est un 2021. Ouais, c'était un moment exceptionnel. Je pense que le moment qui m'a le plus marqué en parlant de poker pur... ce serait de chip lead le main pendant plus ou moins 15 ou 16 heures de jeu. Ça, c'était un des rêves d'enfant. C'est vraiment quand on est sur le main, là, en fin day 4, day 5, day 6, où on a plus que, c'est 100, 200, 50, 60 joueurs. Ça, c'était un moment très, très marquant, même si la perf en elle-même, elle est moins impressionnante, on va dire, qu'en bracelet d'un point de vue extérieur, d'un point de vue intérieur. Ça dure très, très longtemps. C'est des nuits de sommeil. C'est une aventure à laquelle j'ai rêvé depuis mon adolescence.
Parce que tu es dans cette situation-là, il y a forcément le rêve de réaliser l'exploit ultime, quoi. C'est impossible que pendant 15-16 heures, si tu es chip lead de ce tournoi, même si tu es focus, dans ta tête ne passe pas un moment « je suis peut-être en train d'aller au rêve ultime
». Mais surtout, tes 200 left, il y a déjà tellement peu de joueurs par rapport à combien il y a au début que tu as l'impression d'être quasi en table finale.
Ça doit être un moment
la pression énorme, les caméras arrivent, tu te fais putain 200.
Raconte-nous cette expérience-là, parce que c'est vrai que c'est fou quand on y pense.
Ouais, ça c'était dingue, c'est vraiment mon rêve. C'est comme ça que j'ai connu le poker. J'ai connu le poker via les épisodes du Bain sur YouTube. C'est vraiment comme ça que j'ai découvert ce jeu incroyable. Et voilà, donc c'était le rêve. Quand je dis 15-16 heures, c'est 15-16 heures de jeu. Mais en réalité, dans ma vie, c'était peut-être plus de 48 heures, quoi. À la fin du day 4, après, il y a la nuit. Donc on rentre chez nous, on est au day 5. On se dit, ouais, là maintenant, ça y est, ça commence à être sérieux. Tout le day 5, donc c'est 12 heures d'affilée de jeu où je sors pas du top 3, je pense. Après, il y a la nuit du day 5 ou day 6. Et on va dire jusqu'au dinner break du day 6, avoir entre 100 et 200 blindes sur ce tournoi, c'était vraiment une bataille entre essayer de pas trop se projeter, rester dans le moment présent et en même temps kiffer, quoi. Et je pense que c'est peut-être un moment dans ma tête qui a été encore plus marquant que le bracelet, tellement que c'était intense.
Et Romain, dans cette expérience-là, puisque tu as initié le récit de ce moment-là, j'ai envie d'en savoir plus. Combien t'avais terminé à ce moment-là? Le main?
Non, et finalement, je suis 60e. Ouais, une descente aux enfers en fin de day 6.
Raconte, j'allais dire, est-ce qu'il y a un moment, le virage, où tu as une sorte d'impression que le rêve s'effondre, quoi? C'est quoi?
Ouais, c'est une succession de, je pense, 3 ou 4 coups qui coûtent 30 blindes d'affilée. Ouais. Et puis, c'est des coups, on va dire, certains inévitables et certains que j'ai jamais joué de la même manière. Je jouerai sûrement jamais de la même manière. Ça qui est beau avec le main, c'est qu'on peut sortir des coups qu'on ne rejouera jamais pareil, parce qu'il y a cet instant précis qui sera jamais pareil. Donc, du coup, c'est important pour moi d'être focus sur le moment. Et je me souviens, il y a un moment, j'avais flopé une flush, j'avais payé une ouverture UTG au cut-off, je crois, avec Roi 10 de trèfle. Et je flopé une flush sur un board Queen High. Et en fait, je sais pas, je suis en train de regarder le gars. Et je suis en train de me dire, mais ce mec-là, et j'ai pas encore vu le flop. Et je suis en train de dire, ce mec-là, il a 25 ou 28 blindes. Et il est hyper concentré, il est hyper sérieux, il voit le board. Et là, je sais pas ce que c'est encore le board, mais je dis, lui, il est prêt à mettre son stack au milieu. Et là, il s'ébête, le gars. Et moi, je regarde, je fais, waouh, je flopais flush. Ça, c'est assez insane. Et je me dis, mais avec mon read et tout, je prends du temps et je fais, en fait, je pense que je vais juste le mettre all-in directement. Peut-être qu'il va pas folder une overpair, peut-être qu'il va pas folder une top pair. Ouais. Et ça va être mon read du moment. Et tant pis, s'il fold, c'est un peu vraiment, je pensais que c'était la bonne chose à faire sur le moment. Finalement, je fais all-in et il me paye avec notre flush draw. Il avait As-Roi avec l'As de trèfle.
Magnifique.
Et il commence par gagner ce coup, et donc du coup c'est le début de la descente.
Attends, toi t'as full et lui il a quoi du coup?
Non, il a flush flopé au roi avec trois trèfles au milieu et l'autre un as de trèfle sec. Et il lui fait, voilà. Il lui fait trèfle à la turn ou à la river. Et
non.
Ouais, ça c'était le début de la descente.
J'avais pas compris. Je crois que t'avais dit que t'avais fait full, non? T'as tu flush. Oh là là.
Ouais,
il lui a mis un 20-80 à 300 000 dollars.
Oh putain. Oh l'horreur.
Ouais, en fait, c'était le début du truc. Et après, en effet, il y a eu, un 2 rois, 2 as assez inévitable. Oh, pire, 2 rois contre as roi contre 2 as, en 3
all-in. Pour être sûr que tu perdes, pour être sûr que t'aies plus d'espoir, ouais.
Après, il me restait encore au moins 50-20 après ce coup-là, et après deux autres coups inévitables, et puis, hop, on sort, et les larmes aux yeux, et un moment difficile, mais ouais, qui restera marqué à vie. Et puis,
le main, ça reste le main.
Peut-être
hein.
que c'est possible. Mm. Voilà, c'est ce que je dis, c'est que même si j'arrête un peu et que je réduis un peu le poker, il y a nulle part où je préférais être dans le monde entre le 4 juillet et le 15 juillet, c'est que de jouer le main event, quoi. Ça restera à vie, je pense.
À part ces finales de l'Angleterre à la Coupe du Monde.
Mais là, en plus, j'ai une situation parce que cet été, il y a mon daron qui vient aux États-Unis parce qu'il est trop chaud pour la Coupe du Monde. Il m'a jamais vu jouer à Vegas. Et voilà, lui, il a tout calculé. Normalement, l'Angleterre, on joue contre le Mexique. Si tout se passe bien, on fait premier de notre poule. Et le Mexique.
Ça y est, il est déjà, il est comme au day 5 de main event. Là, si tout, on joue le Mexique au premier. Si tout se passe bien, on gagne. On est en finale.
Et dis-moi, à un moment, vous allez, avec tous les super joueurs que vous avez, vous allez réussir à faire un truc à un moment ou pas?
Finale de l'Euro, quand même.
Ouais, ben, écoute, là, c'est pas mal de, moi, j'aime bien ce qu'il a fait, là, Thomas Tuchel. Il a mis
qu'il a bust les Flodan et tout.
Il a mis beaucoup de star out. Il a que mis des joueurs qui vont se battre à fond. Je pense qu'on, on va changer un peu de style. On va presser à fond. Peut-être que c'est notre année, Daniel, là.
Non, je sais pas, mais il y a tellement eu d'années. Vous avez eu, parce que l'Angleterre n'a que des bons joueurs. À un moment, ça va rigoler, quand même, non? Bah, toi, ouais, tu dis finale de l'Euro. Cette finale de l'Euro, jamais ils doivent la perdre.
Horrible. En plus, ils gagnent un zéro direct et tout. C'était
jamais ils doivent la perdre. Non, ils sont noirs de noir.
Ah bah tu vois, ils sont noirs. Voilà, vous êtes noirs.
Ouais. Moi-même qui supporte l'Italie, jamais une seconde, j'imagine qu'on va gagner 7 euros. Après, si les Anglais veulent nous le donner, on le prend, quoi. Si tu veux faire.
Arrête de le charrier comme ça, le pauvre.
Romain, on t'embrasse. Pour ma part, j'espère te revoir quand même, malgré tout, sur les tournois et ailleurs. T'es un type formidable et je pense que tous les gens dans le poker, je pense que t'es le gars, Romain. On dit Romain, il est super. Et ça, c'est bien quand même.
Et Julien t'embrasse.
Ça fait plaisir, Daniel. Merci beaucoup.
Salut Romain, à très bientôt.
Ouais, bisous tout le monde.
Ciao, ciao, ciao. Et nous, on revient dans un instant pour la troisième partie. Et dans la tête d'un fiche, Jérémy Sirbin, malgré son heads-up perdu dimanche dernier, va quand même nous présenter une main. Voilà, Pierre.
Magnifique.
À tout de suite.
Minuit, une heure.
C'est le RMC Poker Show.
Voilà, troisième partie du RMC Poker Show, on est là avec Pierre Calamisa, tous les deux abandonnés par Moundir dans ce studio. On l'embrasse, Moundir, il est parti se reposer un petit peu, ou peut-être même bosser, on ne le sait pas, il est mystérieux, peut-être nous prépare-t-il un projet magique. On l'embrasse en tout cas, Moundir, dans la tête d'un fiche, mais avant ça, on l'avait promis dans le sommaire, il y a un malade, il y a un souffrant. L'ordonnance de Pierre Calamisa face à un souffrant qui s'appelle Mehdi, je crois. Salut Mehdi.
Salut Mehdi.
Bonjour monsieur.
Mehdi, tu as mal à la tête, il paraît?
Alors, c'est un peu particulier, parce que c'est plutôt un ami à moi qui a mal à la tête, mais moi j'étais impliqué dans le coup. Donc c'est pour ça que je vous appelle. D'accord. Donc c'est plutôt l'ordonnance pour lui.
Alors attends, parce que je crois qu'on a un jingle
spécial.
Spécial.
Une main vous rend malade? Pas de panique, il y a notre clinique. Les brancardiers Riolo et Moundir vous accompagnent et Pierre Calamusa vous soigne. C'est l'ordonnance du Viet Phu.
Bon, alors, le problème, c'est que brancardier, je suis tout seul, tu risques de tomber du brancard, donc explique bien, parce que avant d'arriver chez le médecin. Voilà. Allez, c'est parti, on t'écoute, Mehdi.
D'accord. Alors, c'était en cash game, au partout, justement, qui vient d'ouvrir sur la table de 4.
Ouais.
Ouais, très très beau casino d'ailleurs. Mm-hmm. Moi, j'étais UTG plus 1. Mm-hmm. J'étais quasiment mourant, il me restait 70-75. Et j'ai As-Roi. As de pique et Roi de carreau. Je sais que Pierre, t'aimes pas qu'on donne la main de l'opposant, donc je vais pas la donner volontairement.
Ah, tu suis, putain, t'es fort, hein.
Vas-y, mais dis, continue. On est là.
Donc 2-4, je fais 12. Parfait. Mon pote, d'ailleurs, qui s'appelle Pierre, justement, est au hijack. Ouais. Et lui, il a dame 10 de pique. Donc il paye mes 12, et la bébé, elle complète.
Ok.
Le flop.
Le pot 38 euros. Ok.
Ouais, c'est ça. Flop, roi de pique, valet de carreau au cœur et 8 de pique.
Oh, il est monstrueux.
donc la bébé tchèque, moi je mets 18.
Ouais, super, très bien joué.
Mon pote, il raise à 50, donc celui qui a dame 10 de carreau.
De pique.
Donc avec tirage flush et tirage okay, okay. Par les deux bouts.
Ouais.
Et la bébé boîte à 350.
Hein
là,
là. Ouais, c'est ça nous a beaucoup surpris. Alors le stack de la bébé donc à peu près 350 et mon pote c'est à peu près pareil en fait. Mmh. Bon, moi je souffle mais je suis obligé de payer par rapport à ce qui me reste.
Ouais,
si je sais que je suis derrière.
Pas.
Voilà, c'est ça. Et mon pote tank et il finit par folder.
Putain, elle est dure.
Et donc voilà, c'est ça.
Elle est dure parce que le problème c'est que la big blind si elle a ne serait-ce que as de pique ou as, mais je pense que j'y. Ouais, non, on a dame 10 de pique.
Moi, à la place de ton pote, donc à dame 10, on est donc d'accord qu'il a tirage quinte par les deux bouts. Et
plus pour, tirage flush.
Tirage flush, je n'ai pas compris en fait pourquoi. Parce qu'il a.
Il y a dame 10 de pique et il y a deux piques
au bord. Il y a deux piques, d'accord.
Valet,
d'accord. Waouh.
Le roi et le 8.
350 balles.
Il y a le roi de pique au bord, hein, ça c'est important.
Et oui, moi, le roi de pique et
il a un gros tapis, le gars qui a dame 10, il a beaucoup d'argent devant lui.
Ils ont tous les deux 350.
À peu près pareil que la bébé, donc 350.
Donc il y a 5.
Je crois que je paye.
Non, il est obligé d'y aller parce qu'il y a déjà 130.
Moi je vais payer,
mais c'est vraiment chiant. Honnêtement, si c'était par exemple roi de carreau, valet de pique, 8 de pique et que là le mec il pouvait avoir un truc genre roi de pique, tu vois, ça aurait été catastrophique.
Non, moi j'aurais payé pique, à la place mort. Avec le dame 10 là-dessus, je paye.
Ouais, je paye parce qu'il
y a les deux tirages. S'il y en a qu'un, je paye pas.
Ouais. Non, j'y vais. Il y a trop au milieu, t'as une main qui est trop bonne et on y va. Et surtout, il peut pas avoir roi X de pique, ce qui serait catastrophique. Et des fois, il peut simplement avoir un truc genre pourquoi pas, des fois 9 et 7 de pique, une belle surprise. Hein.
Oui, c'est vrai. Bah, moi aussi, j'aurais payé après lui dans un club de poker. Donc, il a demandé à des gars expérimentés, etc. Il y a pas mal de calls. Il y a certains folds, surtout si c'était en tournoi, pour pas jouer.
Ouais,
tout
mais là,
tournoi,
on engage game pour le coup, ouais.
Ouais, c'est ça, c'est pour ça, ouais.
Et pourquoi en tournoi, tu payes pas? Excuse-moi, mais dis deux secondes. Pourquoi, oui. Pierre, en
par exemple, si t'as la bulle, si t'es loin dans le tournoi.
Ah oui, ah, bah non, si bien sûr, tournoi, évidemment. Dans cette figure-là, je paye pas, oui, mais sinon.
Si t'as la bulle, des choses comme ça, t'as besoin, évidemment, d'une main plus
ou même en tout début de tournoi, bah, ouais, peut-être que tu vas pas hypothéquer. Oui, ok, voilà. D'accord. Ok, après, donc.
Il a foldé.
Ouais, donc, moi, je paye parce que même si je me vois derrière, il me reste quasiment rien derrière. Ouais. Donc, mon pote, il fold. Et est-ce que, Pierre, tu veux essayer de deviner ce qu'il avait là en bébé, celui qui a raise à 300
Le mec, à moins que ce soit un taré, s'il a pas non, de paire là-dessus, il va faire quoi?
Ouais, non, allez, je dirais, je le mets sur Valet 8 de suité.
Bon, moi, Roi Valet.
C'est presque ça. C'est bien double paire, c'est Roi Valet. Ouais, nous, on avait pensé qu'il avait peut-être. Brelan ou quoi.
Mais non,
lui c'est sûr qu'il a une bonne main.
Pour moi, il a deux paires, Roi Valet.
50 contre premier de parole et contre truc. C'est sûr qu'il a une bonne main.
Ouais, on pensait plus à un Brelan, quelque chose d'encore plus costaud pour faire x7 sur le re-raise après que moi j'ai.
Et la question c'est, est-ce que toi tu as touché ou est-ce que ton pote touchait?
Non.
Personne
en fait, ce qui est horrible, c'est que vu que moi je paye, mon pote, il voit la turn et la river. La turn, c'est une brique, et la river, c'est un pic. Donc, il s'en est beaucoup voulu après coup.
Putain, il a gagné le poids à 800.
Bon, voilà.
En fait, l'ordonnance, c'est juste de lui dire il fallait payer, mon vieux.
Et toi, tu lui as pas fait l'as.
Non.
Mais c'est pour ça qu'il faut y aller, il y a trop au milieu, il a une bonne main. Et puis,
Let's go.
Au 3 valets, il est quasiment à 40%, quoi.
Bon, tu lui diras qu'on l'embrasse, ton pote Mehdi. Merci beaucoup de nous avoir proposé cette main intéressante.
Merci à toi, Daniel. Je suis un grand fan, même si je pensais te parler d'abord dans l'after plutôt que dans la RMC Poker Show.
Appelle dans l'after, on se parlera, Mehdi, avec plaisir. En tout cas, je t'embrasse. À bientôt.
Merci, monsieur.
Bye. Ciao, Mehdi. À bientôt. Jérém, on enchaîne ?
On enchaîne.
Dans la tête d'un fiche. Allez. C'est parti.
RMC Poker Show.
Dans la tête d'un fiche.
Alors, l'exercice va être très particulier ce soir parce que
tu es seul face au coach.
Je suis seul face au coach et toutes mes décisions elles peuvent me valoir une petite gifle honteuse.
Non, je me la vie Daniel,
j'ai beau dire que je suis
éducation bienveillante,
je suis confiant parce que
vainqueur du RPT.
Des fois je lui dis je vais peut-être une fessée, ma femme elle me dit non, on dit pas fessée.
Oh là là, ça va.
Bon Jérém, j'espère que tu as trouvé une main pas trop compliquée pour me donner mal à la tête.
Vous me direz à la fin, on va filer à Deauville ce soir, on va jouer le main event du BPT à 600 €, près de 1000 joueurs au départ, on est plus que 29 assurés de 2450 € de gains. On est chip leader avec 1,7 million de jetons au blind.
On est chip lead, ok.
15 000, 30 000 les blindes, un peu moins de 60 blindes. Tout le monde a fold, on est au bouton et on ouvre paire de 5. 5 de carreau, 5 de cœur. On va faire vite sur cette étape, Daniel. Au bouton, 5 de carreau, 5 de cœur, fois 2 classiques.
Ouais, j'ouvre, ouais, bien sûr. Mm-hmm.
C'est ce qu'on attend. Attends, le truc, c'est que s'il y a 2 short stacks depuis les blindes, évidemment, t'envoies tapis. Si les mecs ont moins de 15 blindes, tu t'emmerdes pas, t'envoies tapis, évidemment.
On a fait x2, on a fait 60 000 folds de la petite blinde. Seule la grosse blinde va payer. Elle a 740 000 jetons. Donc on est 2 joueurs.
23 blindes.
On est 2 joueurs. Le pot fait 165 000. Le flop, 8 de cœur, 10 de pique, 5 de trèfle.
Oh, mais qu'est-ce que tu sais ? On a fait brelan ?
On a fait brelan.
Comment tu veux que ce soit une décision difficile ?
Tout peut changer, hein, tu sais.
Turn 5.
Nous faire chier avec une possible quinte.
On a brelan.
À la tête, là.
On a brelan. Check de la grosse blinde. Et c'est à toi de parler, Daniel, face à ton coach. L'éternelle question, c'est est-ce qu'on continue à miser ou est-ce qu'on check en disant.
Il n'y a pas de tirage couleur là-dessus ?
Il y a. 8, 10, 10, 5, c'est Rainbow. 8 de cœur, 10 de pique, 5 de trèfle.
Bah, j'ai ouvert, donc l'idée, comme je me moque toujours de ceux qui font des C-bet automatiques comme des machines. Je me demande toujours si moi je dois le faire, ça dépend des cas.
Ouais, sur brelan, c'est toujours une question compliquée.
Là, oui, parce qu'on se voit tellement fort qu'on se dit vas-y, excite-toi.
Ouais, j'ai pas envie de faire partir.
Et tout. Ouais. Après, de grosses blindes, je sais pas quel genre de mec, si c'est le gars qui défend tout. 8 et 10, je me sens quand même à l'abri là-dessus.
Le pot 165 000. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Check back ou mise ?
Je vais faire un C-bet pas gros.
Genre un tiers ?
Non, c'est con, il a combien le pot là maintenant ?
Il fait 165 000 le pot.
165 000 ?
Ouais.
Bon, un tiers, un truc comme ça.
Ok, je vais faire dans les 60.
Ok. Tiro. Ok. En fait, l'idée de slow play, en général, c'est d'attraper avec son brelan, comme on dit. Elle est, en fait, si j'ai un B, il y a un brelan qu'on voudrait slow play, sous-jouer, ça serait toujours le brelan de 10 plutôt que le brelan de 5. Pourquoi, Daniel ? Pourquoi est-ce que tu as un brelan de 10, tu peux dire, OK, je veux peut-être attraper, et pourquoi est-ce que tu as un brelan de 5, tu veux tout le temps miser ?
Dans ce cas de figure-là ?
Dans tous les cas de figure. Pourquoi est-ce qu'en fait, quand on attrape, on se sert toujours du brelan du haut et jamais du brelan du bas ? Jérôme, c'est une question pour toi aussi.
Ouais.
Voilà, bêtement, je vais te dire parce que c'est plus gros.
Je suis plus confort, quoi.
Non, parce que là, le mec peut jamais avoir peur de 10, peut jamais avoir peur de 8, tu aurais fait tapis avant le flop. Ouais. C'est pas une question de je suis jamais battu, quoi. C'est qu'en fait, quand t'as le brelan du bas, c'est plus probable que tu te fasses payer parce que le mec a plus de 10 disponibles dans son éventail de main pour te payer, d'accord. Mm-hmm. Alors que si t'as par exemple, t'as brelan d'as sur, ou carré d'as sur as 2, tu sais que le mec peut rien avoir pour te
payer. Non, mais là, dans ce cas de figure-là, envisager qu'il ait un 10 pour me payer, j'ai bien compris.
Oui, et donc mais c'est important de dire.
Ta question, c'est.
Si tu veux attraper dans cette situation, utilise ton brelan de 10. Parce que tu sais que ton adversaire a plus souvent rien du tout et qu'il va passer. Alors que quand il a brelan de 5, au contraire, c'est très probable que lui ait défendu un valet 10, un 10 et 9, un 8, etc. en main.
Donc,
voilà. Si tu hésites entre attraper ou tout de suite miser, utilise toujours le brelan du haut pour attraper et le brelan du bas pour miser. Donc là, ton brelan du bas, tu le mises.
C'est ce qu'on a fait. On a fait 60 000 dans 165 000, un tiers pot. C'est payé en face. Le pot fait désormais 285 000. Turn 7 de pique et ça nouveau check chier, en ça, face. Forcément. Il tapote encore en face. 7 de pique, deuxième pique.
Là, qu'est-ce je suis obligé d'envisager les défenses de blinde avec des cartes qui lui font rentrer une quinte ou qui le mettent sur un très bon tirage. Donc là, ça devient vraiment, vraiment compliqué. Donc là, je me vois miser et j'ai pas du tout envie de voir la dernière maintenant.
Donc miser plus gros.
Ouais.
D'accord.
Attends. Laisse-moi réfléchir un petit peu, là. Mm-hmm.
Le pot, 285 000. Réflexion chez Daniel.
Non, je mise là. Je suis obligé de
miser. Et donc, tu mises combien cher ou pas cher ?
Ouais.
Assez cher. Pierrot, faut miser cher, là, ou pas ?
Et c'est là où je vais vous apprendre un concept qui est très important au poker. C'est un concept que nous, joueurs de poker, avant l'ère des ordinateurs, des solvers, on ne comprenait pas et maintenant on le comprend beaucoup mieux. Donc là, le board, c'est 10, 8, 5, 7 avec un coup de tirage pique, d'accord ?
Exactement.
En fait, la connexion du board, avant, on se disait, bon, bah, vu que le board est très connecté, j'ai pas envie de voir la rivière, je vais faire tapis pour lui couper les cotes, d'accord ? Ou je vais faire une très grosse mise. Mmh. En fait, c'est exactement la manière inverse dont l'ordinateur va réfléchir. Il va se dire, je vais miser une mise intermédiaire et je vais attendre à que la rivière tombe pour investir beaucoup d'argent. En fait, ce qui va se passer, c'est que avec ton éventail de mains, si tu
commences en prenant le risque qu'il y a quelque chose qui nous arrange pas river.
Et si ça nous arrange pas, on aura toujours la possibilité de fold the river. Ça nous laisse la possibilité de pas avoir construit le pot et surtout, ça nous laisse ça laisse la défense de l'adversaire plus compliquée parce qu'en fait, quand on met un parpaing, bah, il va continuer juste avec des très fortes mains, 9 et 10, des top pairs, des pairs plus open-ended, d'accord? Mais s'il a une main comme une main comme As-5, par exemple, ou une main comme Dame-5, des mains qui sont un peu intermédiaires, et qui ont 0% contre la nôtre, il va tout folder. Donc, en fait, quand on mise cher, on va se concentrer contre les quintes et les mains qui peuvent nous battre.
Ouais, moi, là, s'il fold, je m'en fous, en vrai.
Ouais. Non, mais là, t'as quand même une main très forte, et il faut que tu investisses, mais là, du coup, on va faire une mise plutôt dans un tour de la moitié du pot. Sur les briques à la rivière,
faire,
on va
continuer du pot.
Sur, voilà, c'est super. Mais pas, tu vois, souvent les joueurs là, ils font pot ou trois quarts pot.
Non, moitié là.
Donc là, on mise une mise modérée parce que le board va évoluer.
Je voulais
et on attend la rivière avant d'investir.
Nous, on a fait quand même assez cher. On a fait 170 000 dans 285 000, donc un peu plus cher que ça.
Un peu trop cher, ouais, mais c'est ok, c'est très bien.
Longue hésitation en face et il finit par payer. Le pot, il fait 625 000.
River 9.
River valet de cœur.
Le 9 fait quinte, c'est quoi?
Le 9 fait quinte. Et là, on s'y attendait pas. Donc, bête à tapis assez rapidement. Je sais que t'as parlé de ces réflexions là récemment là, en commentant en disant souvent quand ils prennent une réflexion rapide et qu'ils voient des tirages, c'est qu'ils sont en carnaval.
Ouais, c'est terrible parce que vas-y, je mate Daniel, je te laisse.
Daniel, qu'est-ce qu'on fait River? Il met 450 000 au milieu, on le couvre, mais ça ampute quand même un peu notre tapis.
Il a vraiment joué très vite quand il a vu le valet.
Absolument.
Je paye.
C'est payé.
Il fait pote, c'est ça?
Il fait moins du pot, il lui reste 450 000. Et le pot, il fait 625 000. C'est payé chez Daniel.
Mais ouais, pas parce que qu'il a joué très vite.
Et ouais, il a joué très vite et j'entendais Pierre en parler cette nuit dans un commentaire.
Pourquoi il fait ça hyper vite comme ça? En fait, prends ton temps. Si t'as vraiment touché la quinte et tout, hop, voilà, bim, tu me mets ça. Et vraiment, si à peine il a eu le valet, il a pris ses jetons, il a fait all-in direct, moi je le paye.
Ouais, je vais t'expliquer cette nuit.
Ouais, normalement, c'est sur un board qui est très riche. Généralement quand on joue très vite hein, il faut avoir fait un peu de cinéma quand on a la quinte, donc là je vais payer avec maman qui est quand même
le cinéma fort. De Daniel, je vais en parler d'ailleurs.
Ouais, si jamais c'est un mec qui réfléchit et fait tapis, j'aurais foldé.
On a fini par payer, pas de gaieté de cœur, mais en face il y avait As-5 de pique pour un gros bluff river.
Putain, toi,
on a parlé
yes, d'As-5,
tu l'avais dit As-5 hein.
Attends, je suis fort en call
As-5, il avait deux piques.
En ce moment les calls là.
Bien joué Daniel, et ce tel est très important. Quand vous voyez un mec qui est sur un board très riche avec une rivière qui change tout, qui change les nuts, qui change un peu
qui joue très vite.
Et qui joue très vite généralement, c'est que il a un bluff et décide de partir à tapis et en plus quand
il est déjà dans ton plan.
Et en plus quand ils ont un 9, le mec il va essayer de t'induire en erreur un petit peu, il va prendre 2-3 secondes quand même pour dire qu'il est peut-être faible, tu vois. Donc c'est la combinaison de ces deux facteurs fait que généralement quand les mecs jouent très vite, ils sont en bluff.
Alors je vais juste parler d'un tel avant parce qu'on en a fait la semaine dernière chez Daniel. Il y a une mise à côté chez lui, et Daniel paye, il lui reste pas grand-chose, il fait 2500. Bah tapis. Ça c'est un gros tel, non?
Nuts.
Ouais, nuts. C'est fait pour Géraldine, elle voulait que j'en parle.
Excuse-moi, mais
Géraldine a fait ça? Elle m'a claqué.
C'est Daniel qui a fait ça. Et on a vu. Mais il a été payé.
Est-ce que ça a marché?
Ça a marché.
J'ai été payé.
Mais j'ai pas compris qu'il a été payé.
Ouais, mais parce qu'il a amené trois agneaux à table qui ont jamais. J'ai envie de rentrer chez moi, mais t'es chez toi, Daniel.
Les agneaux, je les ai pris, je les ai embrochés, ils tournent encore.
C'est comme ça que tu fais ton oseille.
Merci beaucoup, Pierre.
Merci, les gars.
On se retrouve la semaine prochaine et peut-être qu'on aura Julien Cidbon et un bras.
On espère.
On l'embrasse. Bonne semaine à tous. Ciao.
Durant une heure, RMC met carte sur table.
C'est le RMC Poker Show.